France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. En l'absence de favoris, plusieurs noms avaient fini par circuler. C'est finalement une Vénézuélienne, Maria Corina Machado, le visage de la résistance au régime dictatorial du président Nicolas Maduro, qui s'est vu décerner ce matin le prix Nobel de la paix 2025. Après de longues délibérations à huis clos, le gouvernement de Benjamin Netanyahu a indiqué tôt ce matin avoir approuvé la première phase de l'accord du plan américain pour Gaza. On fera le point sur le calendrier, sachant que de nombreuses questions restent en suspens. Et puis on en parlera aussi avec notre invité. On se rendra par ailleurs en Russie, après que l'armée du Kremlin a lancé la nuit dernière une nouvelle attaque massive sur l'Ukraine, impliquant des centaines de drones et des dizaines de missiles. Enfin, l'actualité en France, c'est évidemment toujours et encore la loterie pour savoir quel sera le ticket gagnant à Matignon. Le président Emmanuel Macron est censé donner un nom avant ce soir. Après plusieurs jours de suspense, son nom a donc enfin été dévoilé. Je veux parler évidemment de la lauréate du prix Nobel de la paix 2025, Maria Corina Machado, chef de file de l'opposition vénézuélienne qui depuis les dernières élections présidentielles dans son pays vit dans la clandestinité. Un prix qui devrait aussi en l'occurrence consoler en partie un certain Donald Trump, lequel lorgnait sur la prestigieuse récompense puisque cette femme politique soutient par ailleurs l'initiative du président américain qui a déclaré la guerre au cartel de la drogue. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Ce matin, le président du comité Nobel a salué, je cite, l'un des exemples les plus extraordinaires de courage civique en Amérique latine.
Ouais, à 58 ans, elle est le visage de la résistance au président Maduro. Maria Corina Machado vit dans la clandestinité au Venezuela depuis l'élection présidentielle de juillet 2024. Élection pour laquelle elle est déclarée inéligible, élection remportée par son remplaçant Edmundo Urrutia, mais élection revendiquée par Nicolas Maduro. Un vol électoral massif, selon Maria Corina Machado, qui refuse de quitter son pays, contrainte à l'isolement pour échapper à la répression. Elle s'exprime pourtant sur les réseaux sociaux et donne de multiples interviews. En janvier dernier, elle réapparaît publiquement à Caracas lors d'une manifestation contre l'investiture de Maduro.
Hagan lo que hagan mañana.
Maria Corina Machado ovationnée, c'est sa méthode, apparaître subitement à un coin de rue pour monter sur un camion podium, haranguer la foule, puis disparaître rapidement en moto pour échapper à une arrestation. Surnommée la Libertadora, libératrice, en hommage au Libertador Simon Bolivar, Maria Corina Machado réaffirme sans relâche son engagement pour la démocratie et la justice électorale, dénonçant la répression, les détentions arbitraires et les violations des droits humains au Venezuela. Combat salué donc tout à l'heure par le président du comité Nobel.
Elle reçoit le prix Nobel de la paix pour son travail infatigable pour promouvoir les droits démocratiques du peuple vénézuélien. Quand des autoritaires prennent le pouvoir, il est crucial de reconnaître les courageux défenseurs de la liberté qui se lèvent et résistent.
Maria Corina Machado qui soutient, vous le disiez, Donald Trump dans sa guerre contre le narcotrafic et contre celui qu'il présente comme un baron de la drogue, Nicolas Maduro. Le Nobel de la paix échappe donc au président américain, mais il ne pourra pas y voir une insulte, comme il le proclamait il y a quelques jours, puisque ce prix est décerné à une cause que les États-Unis soutiennent depuis des années.
Merci Louise Baudet. Alors cette annonce du Nobel de la paix 2025 intervient au lendemain tout juste de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, conclu sans doute trop tard donc pour que Donald Trump effectivement ait quelques chances d'emporter le prix, mais pas seulement, puisqu'en réalité rien ne permet d'affirmer aujourd'hui avec certitude que cette trêve conduira effectivement à un arrêt total des combats, ou dit autrement à une paix autre que celle des morts. Comprenez la fin de la guerre israélo-palestinienne débutée en 1948. Quoi qu'il en soit, Camille Manière, les forces israéliennes ont bel et bien commencé ce matin à se retirer de plusieurs zones de la ville de Gaza, tout en avertissant que plusieurs de ces zones restent extrêmement dangereuses pour la population.
L'armée israélienne a fait savoir qu'elle espérait terminer à midi heure locale, soit il y a une heure et demie, son retrait partiel prévu par l'accord de cessez-le-feu. Et des sources gazaouis affiliées au Hamas le confirment. Les soldats et véhicules militaires israéliens ont bien quitté pendant la nuit plusieurs zones qu'ils occupaient dans la ville de Gaza au nord, mais aussi dans celle de Khan Younes au sud. En fait, ces troupes se repositionnent le long de la ligne jaune négociée dans l'accord de cessez-le-feu, qui fait qu'au terme de ce premier retrait, Israël contrôlera toujours plus de la moitié, 53% de la bande de Gaza. Gaza. Avec ces soldats qui reculent, on voit aussi des milliers de déplacés gazaouis dans le sud qui prennent le chemin du retour vers leur ville dévastée du nord, où il faut le signaler, il y a encore eu ce matin des tirs, des frappes aériennes israéliennes, dont une a fait 5 blessés dans une école. Les signataires de l'accord doivent constater la nuit prochaine le bon respect du cessez-le-feu au terme des 24 heures prévues. Ensuite démarrera la période de 72 heures durant laquelle auront lieu les libérations d'otages, 47 encore détenus par le Hamas, dont 20 encore en vie. Et en face, Israël libérera environ 2000 Palestiniens détenus dans ses prisons. On entrera là dans la seconde phase de l'accord qui doit voir une force de stabilisation internationale se déployer pour garantir le respect du cessez-le-feu. Et puis bien sûr, l'aide humanitaire devrait entrer massivement dans la bande de Gaza. Côté israélien, on dit avoir donné son accord sur 600 camions par jour sous l'égide de l'ONU.
Voilà, et pour continuer d'évoquer les perspectives de paix au Proche-Orient, au lendemain de cet accord de cessez-le-feu, invité à présent de la rédaction, Sarah Daoud, chercheuse associée aux séries de Sciences Po. Bonjour madame.
Bonjour.
Jusqu'à quel point, selon vous, ce plan de paix proposé donc par Donald Trump fait-il souffler un réel vent d'espoir sur le Proche et Moyen-Orient ?
Alors d'abord, je ne parlerai pas de plan de paix, mais en tout cas, ce que ça permet, c'est effectivement l'instauration d'un cessez-le-feu, ce qui était attendu, en particulier dans la bande de Gaza, ce qui était vital. Et effectivement, les deux parties se sont engagées à respecter, en tout cas, la première phase de ce cessez-le-feu qui consiste effectivement, comme vous le rappeliez dans le reportage, au retrait de l'armée israélienne d'une partie de la bande de Gaza, en gardant le contrôle sur au moins 50% du territoire, pour permettre effectivement ensuite la libération des otages en échange de prisonniers palestiniens, l'acheminement de l'aide humanitaire. Et la mise en place effectivement d'une force internationale. Les États-Unis ont déjà annoncé envoyer un certain nombre de troupes en Israël pour garantir la pérennité de ce cessez-le-feu.
Même si ce premier retrait donc intervenu ce matin des forces israéliennes est évidemment primordial dans la mise en œuvre de cet accord, ne craignez-vous pas qu'il soit à terme insuffisant ?
Alors, c'est d'abord un point qui était dans les 20 points du plan proposé par le président américain Trump, un des plans qui était volontairement laissé, qui était assez flou et qui a été renégocié notamment par les négociateurs du Hamas qui ont insisté sur la nécessité de mettre en place un calendrier pour ce retrait et de négocier effectivement la zone sur laquelle la superficie dans laquelle les forces israéliennes se maintiendraient. L'envoi de troupes, d'une force, d'une task force internationale sur le terrain, c'est justement pour garantir que ce retrait se fasse progressivement de la bande de Gaza. Mais effectivement, ça reste un point. Et sur ce point-là, le Hamas a demandé des garanties, donc essentiellement américaines, pour que Israël respecte ses engagements de ce point de vue-là. Mais ça reste un point qui est négocié et ça reste un point assez épineux, puisque l'administration israélienne continue d'affirmer de sa volonté de rester, de maintenir une présence armée dans la bande de Gaza.
S'agissant cette fois-ci de l'échange donc des derniers otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, comment expliquez-vous que le Hamas accepte de se défaire de ce qui constituait au fond son principal levier de négociation avec Israël ? Est-ce qu'il faut en déduire qu'il aurait obtenu des garanties suffisantes pour la suite du processus, en clair le respect de l'accord de cessez-le-feu et non pas une reprise des bombardements par Israël ? Ou bien diriez-vous qu'il n'avait tout simplement plus le choix ?
La libération des otages, c'est un point sur lequel, pour lequel le Hamas a affirmé son accord déjà dès le mois de janvier 2025, au moment de l'instauration d'un cessez-le-feu qui a échoué. Mais c'est quelque chose qui... le Hamas est effectivement sous pression internationale, puisque ce plan de paix américain a été encensé par la plupart des acteurs internationaux, y compris les médiateurs arabes. Donc il y avait une pression effectivement forte sur le Hamas pour également accepter ce plan-là. Mais en échange de la libération de ces otages, effectivement, ce que demande le Hamas aujourd'hui, c'est en premier, donc, le cessez-le-feu, le retrait de l'armée israélienne, l'acheminement de l'aide humanitaire et en échange, un certain nombre de la libération d'un certain nombre de prisonniers, comme vous le disiez, entre donc effectivement des prisonniers qui purgent des peines à perpétuité et puis la libération de plus de 1700 prisonniers palestiniens qui ont été arrêtés depuis le 7 octobre à Gaza. Pour le Hamas, l'obtention de ces prisonniers-là, c'est aussi une façon d'affirmer sa présence, de garder une présence sur la scène politique palestinienne et de toute façon dans le dialogue national palestinien.
Selon vous, qu'allons-nous devoir surveiller en particulier dans les prochaines heures et les prochains jours ?
Eh bien, que cette première phase, effectivement, arrive à son terme, puisque ça conditionnera en fait les phases qui doivent suivre et qui sont les plus cruciales. Ce plan, effectivement, pour l'instant, évacue largement la dimension politique qui n'est adressée que dans les phases 2 et 3, qui sont les plus cruciales, puisqu'il s'agit de la démilitarisation du Hamas, du retrait de l'armée israélienne ou encore de l'administration future de la bande de Gaza.
C'est bien compris. Merci Sarah Daoud, chercheuse donc associée aux séries de Sciences Po, d'avoir répondu à notre invitation ce midi. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Combien de rencontres officielles et officieuses auront été menées pour tenter de rapporter la paix en Ukraine ?
Et cela sans que jamais, depuis plus de 3 longues années, ne cessent les bombardements de l'agresseur russe, de quoi rendre totalement sourd. Le président Vladimir Poutine aux appels à un cessez-le-feu la nuit dernière encore à Kiev, après que les sirènes d'alerte ont hurlé aux habitants de rester dans des abris. Le sombre vrombissement des drones, suivi du bruit des explosions, a rapidement défiguré le ciel. Une attaque d'ampleur qui a partiellement privé la capitale de courant et d'eau potable. L'impact a d'ailleurs été tel que fait rare, le trafic du métro a même dû être temporairement interrompu. Et dans le même temps, d'autres frappes ont aussi secoué la région de Zaporijjia dans le centre du pays. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou. Alors, voilà déjà plusieurs semaines en réalité que l'armée du Kremlin multiplie ainsi les frappes sur les infrastructures énergétiques et le réseau ferroviaire ukrainien à l'approche de l'hiver, faisant craindre, à l'instar d'ailleurs des années précédentes, une campagne qui pourrait plonger donc des millions de personnes dans le noir. Mais cette attaque révèle aussi autre chose, Sylvain, c'est la capacité de la production de l'industrie militaire qui, en dépit des difficultés financières de la Russie, continue donc de tourner à plein régime.
Oui, 450 drones et 30 missiles. Hein. Hier soir, ça n'est pas un record. Hein. La Russie avait notamment lancé plus de 800 drones le 6 septembre dernier. Mais le raid de la nuit dernière, effectivement, vient confirmer l'intensification de ces frappes russes à l'approche de l'hiver. Et après un mois de septembre, déjà record en la matière, hein. D'après l'armée ukrainienne, la Russie a lancé plus de 5600 drones le mois dernier, pas loin de 200 missiles, après un été déjà particulièrement chargé dans le ciel ukrainien, un rythme effréné donc qui confirme que l'industrie de défense russe a su s'adapter aux sanctions. Les drones iraniens de conception à l'origine importés sont désormais, pour une grande partie au moins, fabriqués en Russie. Quant aux missiles dont la technologie est nettement plus complexe, il semble que l'industrie militaire russe arrive toujours à se procurer leurs composants grâce à des réseaux parallèles ou en détournant, on le sait, des puces électroniques de leur objet, par exemple en les prélevant dans des machines à laver ou des téléviseurs. Alors que l'Ukraine envoie chaque nuit quelques dizaines de drones visant notamment les raffineries russes, ce qui commence d'ailleurs à provoquer des tensions sur l'approvisionnement en carburant. Ici, Moscou réplique donc en envoyant les drones par centaines. L'objectif semble être le même qu'à l'automne dernier, hein, fragiliser le système énergétique ukrainien officiellement parce qu'il est une composante de l'effort de guerre, mais il s'agit aussi probablement d'atteindre le moral de la population, déjà usée par 3 ans et demi de guerre, et de, dans l'esprit de Moscou en tout cas, fragiliser le gouvernement ukrainien, ce qui est l'un des objectifs de cette guerre pour le Kremlin. Il faut bien le garder en tête, hein, un changement de régime à Kiev.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Et c'est encore dans ce monde plus que jamais vacillant où l'ordre hérité de la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui contesté frontalement que Pyongyang est censé organiser aujourd'hui, en marge des célébrations du 80e anniversaire du parti au pouvoir, un grand défilé militaire, l'occasion d'y présenter ses armes de dernière génération, mais plus encore d'affirmer la consolidation stratégique de l'axe, donc Corée du Nord, Russie, Chine.
De son côté, Taïwan appelle la Chine justement à renoncer à l'usage de la force pour s'emparer de l'île.
Oui, le président a annoncé ce matin une augmentation des dépenses militaires du pays avec la construction d'un nouveau système de défense aérienne afin de se protéger contre les menaces extérieures et en particulier Pékin, qui considère donc toujours son voisin comme une partie intégrante de son territoire. Enfin, le Japon, à l'aube d'une possible nouvelle crise politique, le parti centriste, partenaire minoritaire de la coalition gouvernementale, a annoncé aujourd'hui se retirer de son alliance alliance avec le Parti libéral-démocrate dont la présidente est destinée à devenir première ministre.
Les 27 ministres européens de l'économie se retrouvent aujourd'hui au Luxembourg avec un agenda chargé.
À l'ordre du jour, la préparation du prochain budget pluriannuel européen, mais aussi à plus court terme, cette fois-ci l'adoption d'une série d'incitations fiscales visant à améliorer les financements européens favorables à la transition écologique, manière de ne pas arriver les mains vides à la conférence de l'ONU sur le climat prévue au Brésil dans tout juste un mois. Les précisions depuis Bruxelles de Fabien Cazot.
L'Union européenne croit beaucoup au levier de la fiscalité pour augmenter les financements publics et privés favorables à la transition écologique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Les incitations fiscales qui devraient être adoptées par les ministres aujourd'hui s'inscrivent pour la plupart dans le cadre du pacte pour une industrie propre présenté par la Commission européenne en février dernier. Tarification du carbone, réduction des subventions nuisant à l'environnement, transition vers des investissements durables. Ce ne sont pas les chantiers parfois techniques qui manquent. Un tiers de l'actuel budget pluriannuel européen qui court jusqu'en 2027 est consacré aux objectifs liés au climat. L'Union européenne souhaite par ailleurs encourager l'essor d'une finance durable en accroissant les obligations de transparence des intermédiaires financiers pour y intégrer des critères environnementaux et en faisant la promotion de ses obligations vertes, un label créé en 2023 pour flécher l'investissement vers des produits financiers décarbonés.
Midi et 46 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
À quand la fin du suspense? A priori, Emmanuel Macron devrait nommer d'ici ce soir un nouveau Premier ministre, tous les chefs de parti, de même que les président de groupe à l'Assemblée, à l'exception de ceux du Rassemblement National et de la France Insoumise, ont été conviés en début d'après-midi à l'Élysée. Aucun ordre du jour n'a été précisé. Rien n'a filtré non plus sur l'heure et les modalités d'une éventuelle annonce, mais tout porte à croire que le chef de l'État pourrait ici chercher à évaluer ses chances de repousser le plus tard possible la menace d'une censure de la nouvelle équipe qu'il s'apprête à nommer. Reste que partout sur l'échiquier politique, les conditions à remplir, comme les lignes rouges à ne pas franchir, sont telles que l'on a du mal malgré tout à percevoir ce qui pourrait in fine sortir le pays de cette situation surréaliste, à la fois clivée et totalement figée. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Au fond, le seul espoir peut-être de trouver une issue à cette impasse institutionnelle inédite, c'est qu'il y aurait aujourd'hui un nombre suffisant de députés qui ne veulent pas d'une nouvelle dissolution, très clairement, qui ont peur, Stéphane, tout simplement de remettre leur poste en jeu.
Oui, et c'est précisément le constat qu'a dressé Sébastien Lecornu à l'issue des 48 heures de consultation que lui avait demandé de mener le président de la République et dont il a fait état mercredi soir sur France 2.
Au fond, ce que je peux dire, après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution. Une nouvelle dissolution.
Et quoi qu'en dise Sébastien Lecornu, c'est bien la crainte d'être battu qui fait qu'un grand nombre de députés pourraient y réfléchir à deux fois avant d'appuyer sur le bouton de la censure. Censure qui pourrait entraîner une nouvelle dissolution et des législatives anticipées. Dans de nombreuses circonscriptions en 2004, beaucoup de députés, à gauche comme à droite, ont été réélus de justesse. Sauvé in extremis par le Front Républicain qui s'est mis en place à ce moment-là, il n'est pas certain qu'un Front Républicain contre le Rassemblement National s'applique à nouveau cette fois-ci, ou en tout cas, pas avec la même ampleur. C'est pourquoi de plus en plus de députés envisagent d'aller très loin dans les concessions qu'ils pourraient accorder à leurs opposants. À droite, par exemple, depuis hier, plusieurs voix s'élèvent pour dire qu'elles pourraient accepter une suspension de la réforme des retraites, alors que le président de leur parti, Bruno Retailleau, la refuse catégoriquement. Et c'est la même chose à gauche. Certains pourraient se contenter de la suspension de la réforme des retraites, alors que leur formation politique réclame à cor et à cri un Premier ministre et un gouvernement de gauche. Et selon Sébastien Lecornu, il serait donc une majorité à avoir suffisamment à perdre pour ne pas enclencher le processus. Cette analyse est toutefois contrebalancée par le fait que chacun de ces députés devra par la suite justifier auprès de l'électorat de leur circonscription une non-censure qui aura permis à Emmanuel Macron de se maintenir alors que la détestation du président est très forte dans tout le pays. Pour résumer, on peut imaginer que la peur de la dissolution pourrait permettre un accord de non-censure du futur gouvernement, mais il n'est pas certain que ce soit suffisant.
Et j'ajoute que l'Élysée précise à l'instant que la réunion prévue cet après-midi avec les chefs de parti devra être, je cite, un moment de responsabilité collective. En choisissant de faire appel de sa condamnation, contrairement aux autres de ses co-accusés reconnus coupables de viol sur Gisèle Pelicot, Hussam Etindé aura 4 jours durant replongé la France dans le cauchemar des viols de Mazan. Hier, la justice l'a finalement condamné à 10 ans de prison, soit une année de plus que ce qu'il avait écopé en première instance, un verdict censé tourner définitivement la page de ce drame que tout le monde voudrait oublier, même si personne précisément ne devra l'effacer. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, plutôt agréable sur la majeure partie du pays, même si quelques nuages devraient encore persister au nord de la Loire. Quant aux températures, elles sont comprises entre 15 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Vogel pour le prochain journal de la rédaction.